Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette émission Patara, le débat politique du premier média centrafricain. Un seul sujet préoccupe nos auditeurs et internautes, c'est le concept démocratie. Le 15 septembre de chaque année, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de la démocratie. Elle est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Cette année, le thème est renforcer des moyens d'action de la prochaine génération, mettre en valeur et faire entendre la voix des jeunes leaders qui défendent les solutions pouvant aider à résoudre certains des enjeux les plus urgents de notre époque, notamment les changements climatiques. Question à République centrafricaine, est-ce que le concept de la démocratie est respecté au regard du concept centrafricain ou des contextes centrafricains? Le pays est-il démocratique? Nos invités ici sur le plateau nous en diront plus. Pour en débattre, je reçois M. Serge Gbayombo, porte-parole du chef de file de l'opposition, Anastasie Georges Deloguélé. M. Gbayombo, bonjour.
Bonjour Armando.
M. Hippolyte Ngaté-Robard, bonjour.
Bonjour.
Directeur des ressources humaines au ministère des Finances et Budget, l'un des leaders jeunes qui soutiennent les actions du gouvernement, particulièrement du président de la République. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Le débat politique, ouvrons le bal avec vous, Monsieur Ngaté. Hein. Quelle est votre compréhension du concept démocratie dans un pays?
Eh bien, Armando, vous venez de l'annoncer ici. Hein. La démocratie, c'est comme vous l'avez défini dans votre introduction ici, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, ma compréhension des choses est qu'en République centrafricaine, il y a vraiment la démocratie. Parce qu'il y a eu ce qu'on a constaté dans les derniers temps, la manifestation d'intérêt pour des positionnements politiques, la liberté d'expression, qui est l'un des critères de la démocratie, qui est respectée. Donc, ma conception des choses pour le pays Centrafrique est que la démocratie existe parce qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Chaque leader politique s'exprime entièrement et totalement libre, avec aucune conséquence. Il n'y a pas de preuve du contraire. Ma conception des choses pour mon pays, je sais que le pays est forcément fondé sur la politique, sur la démocratie.
C'est vous. Et on vous écoute, M. Serge Boyau, sur ce concept de la démocratie dans un pays quelconque.
D'abord, je voudrais signifier d'abord le mot démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? En sens étymologique, le plus simple, d'après le dictionnaire Robert, la démocratie est scindée en deux parties. Le mot démos, qui veut dire peuple, ça c'est en grec, et la kratie, qui veut dire commander. En fait, c'est le pouvoir du peuple qui s'exerce, cette forme qui s'exerce par une forme de gouvernance qui, par laquelle la souveraineté appartient au peuple et donc le suffrage universel et donc la démocratie elle-même. Et donc, pour dire la démocratie, c'est d'abord la souveraineté du peuple qui se dégage à travers les actes qui se posent et les principes démocratiques qui se posent dans un pays donné. J'ai écouté mon frère Ngaté dire tout à l'heure que la démocratie fonctionne bien en Centrafrique. Je m'inscris en faux pour dire que non, la démocratie ne fonctionne pas bien. J'ai des exemples, moi-même je suis victime pour dire que la liberté d'opinion existe, tout ça. Non, je dis non, je suis victime, j'ai été traqué lors de campagne référendaire, j'ai été traqué, j'ai été malmené comme un malfrat. Et on m'a emmené au niveau de la SRI. Et tout le monde le sait, ça a été diffusé
monsieur
partout.
Armando,
je vous en prie, monsieur Ngaté.
Je vous en prie, monsieur Ngaté.
Allez vite au besoin.
Parce que,
vous ne dirigez pas le débat.
Je ne dirige pas le débat.
Vous ne dirigez pas le débat. Vous ne dirigez pas le débat. Laissez le temps à monsieur Armando.
Vous allez répondre.
Vous allez répondre.
Qu'il finisse.
Vous allez répondre. Et donc, dire que la démocratie existe, je dirais non. Notre démocratie est malade. Et je vais m'expliquer tout à l'heure.
Oui, monsieur Ngaté, vous voulez rebondir? Je pose ce préalable avant, hein. C'est que vous pouvez rebondir, mais notez et souffrez pour qu'il finisse l'idée qu'il est en train de développer. Vous reprenez maintenant la parole parce que vous voulez rebondir tout à l'heure.
Bon, ça me fait rire, monsieur Armando. En fait, bon, je ne pensais pas qu'il fallait taper sur Google et venir expliquer Google aux gens, parce que tout le monde a la liberté de lire sur Google
le concept démocratique. On nous demande qu'il y ait un principe ici. Vous avez donné votre concept à vous, j'ai aussi mon concept à moi que je donne.
C'est bon.
Donc, nous ne sommes pas là pour faire des leçons.
Monsieur,
on ne fait pas de leçons ici.
S'il vous plaît, oui, continuez, monsieur Ngaté.
Alors, vous posez un problème. S'il existe une démocratie ou pas, monsieur s'en va directement pour donner des exemples sur lui.
Il saute sur le fait que vous avez dit qu'il n'y a pas de prisonniers.
Effectivement.
Les gens parlent librement.
Il y a la liberté d'opinion.
C'est tout ça qu'il a rebondi tout à l'heure pour recadrer selon lui cette idée en fait.
D'abord, quand il vous dit ici, devant votre micro, qu'il a été peut-être arrêté et tout.
Pas peut-être.
Alors, c'est les faits. Il faut aller dans les fonds. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Ah, sauf vous ne connaissez pas peut-être.
Monsieur, je m'adresse à monsieur Armando qui pose la question.
Oui, c'est bon. Calmez-vous et reprenez, monsieur.
Alors, dans les faits, monsieur Armando, nous parlons et le peuple, la population centrafricaine nous suit partout. Si vous avez un seul exemple d'un prisonnier politique à l'heure où je parle, quand on parle de prisonnier politique, on parle des gens qui sont arrêtés, présumés innocents, jugés, les faits sont établis et on met les personnes aux arrêts. Le concept de prisonnier s'explique de la manière suivante. Alors, à ce jour, je défie M. Bayomo devant moi ici, qu'il me donne un seul nom de prisonnier politique dans les prisons centrafricaines. Ça n'existe pas. Alors, ça ne sert à rien de fantasmer sur votre situation. Donc,
si on se respecte.
Donc, ça ne sert à rien.
Monsieur Ngaté.
Non, mais je vous respecte. Je vous respecte.
Ne soyez pas émotif.
Il n'y a, M. Bayomo, aucun prisonnier. Il n'y a aucun prisonnier politique.
Bon, maintenant, on réforme.
Alors,
on réforme.
Non, mais je conclue vraiment en disant, je défie M. Bayombo de me donner un seul nom de prisonnier politique à l'heure où nous parlons.
Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui fonde la démocratie dans une république? Parce qu'il y a plusieurs ingrédients qui fondent la démocratie. Nous prenons, par exemple, le droit à l'éducation. Est-ce que cela est respecté dans ce pays avant qu'on ne poursuive M. Ngaté?
Le droit à l'éducation, l'école est gratuite chez nous. L'école est gratuite. Est-ce qu'il existe une ville, une région dans ce pays où le gouvernement ne prend pas en charge l'aspect éducatif? Vous ne me direz pas le contraire. Malgré les crises qui n'ont pas cessé de sévir un peu partout dans le pays, le gouvernement ou le système actuel que dirige le président Faustin Archange Touadéra fait de son mieux que sur le territoire national, les enfants soient dans des conditions pour accéder aux écoles et apprendre à lire et à écrire. Donc l'éducation fonctionne normalement. Alors si ce n'est que l'un des critères de la démocratie.
C'est ça. Voilà. On va aller pas en pas.
Voilà. Il y a l'accès à l'éducation. L'école est entièrement et totalement gratuite. Sauf que chaque citoyen est libre d'inscrire son enfant dans un établissement public ou privé. Donc cette liberté de l'éducation existe. Personne ne peut me dire le contraire. Donc si on se pose la question sur l'un de ces critères qui dégage le statut de la démocratie, oui, en Centrafrique, l'accès à l'éducation, elle est toujours libre et le système actuel fait tout de son mieux pour que les enfants centrafricains puissent avoir accès à l'école et gratuitement.
Monsieur Bayombo, vous reprenez la parole. On parle de l'un de ces critères de la démocratie qui est donc l'éducation dans une république.
Mais il n'y a pas si longtemps que j'ai écouté sur Radio Ndekeluka un reportage. La préfecture de Obo et autres, il n'y a pas d'école là-bas, il n'y a pas d'accès d'école. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Dire qu'il y a des écoles qui fonctionnent bien et que l'éducation fonctionne bien, je dis non, ça ne fonctionne pas bien. Regardez vers Obo, vers Mboki et ses parents qui se retrouvent là-bas, les gens vers Birao qui ont eu leur baccalauréat ne peuvent pas accéder à l'université parce qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule université. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment notre école, notre système éducatif fonctionne. Je dis non, il n'y a pas une bonne éducation en République centrafricaine. Donc je dis le contraire de ce que dit M. Ngaté.
Oui, mais si vous pouvez parler de contraire, je reviens vers M. Ngaté. Les gens critiquent la manière qu'on forme dans l'école publique par rapport à l'école privée ou aux établissements privés et certains axes sont impraticables pour que les enseignants y vont, hein, parlent à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut parler, même si vous parlez de la gratuité de l'école, mais tout cela peut dire que nous avons une éducation normale dans ce pays?
Il est vrai, M. Armando, que la qualité de notre éducation aujourd'hui laisse à désirer. Mais ce n'est pas l'apanage du système actuel, ça remonte à très loin. Notre école a commencé à être mise à la marge depuis la période où, peut-être mal conseillée à l'époque du président Kolingba, on a commencé à encourager l'initiative de départ volontaire assisté, où beaucoup d'enseignants qualifiés, peut-être que poussés par la misère, ont sauté sur l'occasion et depuis lors, on nous a encouragés à aller dans le système de formation accéléré des maîtres enseignants, ajouter à cela. À l'époque de Patassé, où on devait prendre les étudiants à l'université, peu importe leur niveau, pour venir remplacer les enseignants à l'école. Donc c'est ce problème, cette difficulté qui a entaché la qualité de notre éducation aujourd'hui ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient de deux décennies aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de changement aujourd'hui? Si, il y a changement. Parce que depuis pratiquement le début du mandat du président Touadéra, beaucoup d'enseignants qualifiés ont été formés par des financements des partenaires techniques et financiers. À ce jour, on ne parle pas...
Mais le problème reste encore, comme vous l'avez soulevé.
Lequel ?
Manque d'enseignants qualifiés dans certaines écoles.
Mais c'est un problème de longue date. Et puis, on ne peut pas résoudre le problème en un seul jour, en une année, monsieur. On dit, il y a un adage qui dit que Paris n'est pas construit en un jour. La formation de ressources humaines de qualité, ça se fait sur la durée, monsieur. Ça se fait pour corriger ces erreurs qui ont commencé à être implantées depuis le temps de Kolimba. Renforcé au temps de Patassé. À l'époque, c'était le MLPC au pouvoir. Avec ces leaders aujourd'hui qui critiquent, qui étaient tous pratiquement premiers ministres, qui n'ont pas pu mieux faire, qui ont renforcé d'abord les conditions difficiles de précarité des anciens à l'époque, avec une bonne dose d'absence de paiement de salaire. Ceux qui étaient incapables hier de payer les salaires sont à l'origine de la qualité d'enseignement aujourd'hui. Il n'y a pas de leçon à donner. Et depuis l'époque où Touadéra est au pouvoir, les enseignants sont bien traités parce que c'est d'abord un enseignant, rassurez-vous. C'est d'abord un enseignant. Donc, sur la qualité de l'enseignement, on n'a pas de leçon.
Je vous rappelle.
Il s'y connaît parfaitement.
Et il fait de son mieux. Les enseignants ont déposé, du primaire, du fondamental 1 et 2, ont déposé des revendications depuis plus d'un an, vous le savez.
Laquelle ?
Sur la table du gouvernement qui reste à éponger.
Et quelle c'était quoi ? Le larrieré ?
Je parle de l'amélioration
de leurs conditions. L'amélioration de leurs conditions.
Justement, monsieur Armanteau, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette tentation ou cette ruée vers le statut spécial. Vous savez, déjà là, le pays a un sérieux souci de mobilisation de ressources. Si tout le monde doit avoir un statut particulier, vous savez quel impact ça peut avoir sur le budget de l'État ? Ce n'est pas des choses qui se décident comme ça. Déjà, les policiers ont demandé, ils l'ont obtenu. Les militaires, ils en ont. Les juges, ils en ont. Mais si tout le monde veut avoir un statut particulier, c'est avec quelles ressources ? Va-t-on financer ?
Mais pourquoi on a accepté pour les autres et
la négociation avec eux. Les policiers, ça date pas d'aujourd'hui, leur demande de traitement de statut spécial. Après, pour certaines raisons que nous, on ne maîtrise pas aujourd'hui, ça leur a été accepté. Le contexte le justifie autant. Le contexte dans lequel nous vivons actuellement, le contexte d'insécurité, ça nécessite une certaine décision incitative.
On
travaille. Donc on ne peut pas. Voilà. Donc je vous dis, si on peut pas lier le fait que les enseignants aient demandé un statut particulier pour avoir un traitement spécial au fait que ça affecte la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Non, parce que c'est des décisions purement économiques. On ne peut pas s'engager
politique,
sur.
Hein.
Mais oui, mais bien sûr, même si c'est politique. Avant de décider politiquement, il faut avoir les moyens de sa politique. On peut pas décider de donner un statut spécial aux enseignants, sachant très bien qu'on ne peut pas financer cela à l'avenir. Donc ça risque de générer d'autres problèmes.
On écoute monsieur Boyombo sur cette question des conditions de travail, même s'il y a la gratuité de l'école, mais sur le plan national, tout ce qui se passe, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter ?
Non, mais ce que je viens d'entendre, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il y a des enseignants qui aujourd'hui, leurs conditions de travail est vraiment misérable, à tel point aujourd'hui ils se battent comme le diable, le bon diable.
Un exemple, monsieur Boyombo.
Un exemple. Mais regardez, le salaire des enseignants.
Ils sont payés à terme échu.
Non, je ne parle pas de terme échu, de salaire. Je parle de ce qu'ils perçoivent mensuellement, monsieur. Regardez, cette somme maudite qu'ils perçoivent aujourd'hui, ça remonte de l'époque d'ACO, qu'ils ont eu leur quelque chose d'indemnité, de créer haute. Mais jusque-là, rien n'a bougé. Et pourtant, nous avons un professeur d'université, des universités sur la tête du pays. Et ça doit être une fierté pour les enseignants. Il doit résorber ce problème. Il doit résorber ce problème. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Et on dit ici, non, tout le monde ne peut pas avoir un statut particulier, comme si c'était de la blague. Mais c'est eux qui forment les fonctionnaires de demain. C'est eux qui forment les citoyens. C'est eux qui forment, qui se sacrifient pour former. Et ils sont les parents pauvres de la fonction publique. Pourquoi on ne peut pas leur donner ? Et on dit que non, on ne peut pas donner à tout le monde. Non, je dis non. Ils ont du travail à faire, mais dans des conditions misérables et difficiles. Il faut qu'on le reconnaisse. Vous avez dit tout à l'heure que cette histoire de la décadence de l'éducation date de plus de 2 décennies. Je vous dis, mais si ça date de 2 décennies, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette situation ? Car on dit gouverner, se prévoir. On arrive au pouvoir avec un plan d'action, avec un projet de société qu'on déroule. Mais si on n'arrive pas à dérouler, au bout de 7 ans, rien n'est fait. Les gens se plaignent et vous dites que ça date. Donc, quand ça date aujourd'hui de 2 décennies, on ne peut rien faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit non, il faut qu'on fasse tout pour qu'on règle cette situation, pour que l'avenir de nos enfants, l'avenir de la République centrafricaine, il dépend de cette éducation, de ces enseignants qui fournissent de bons enseignements à nos enfants. Il faut que cela se passe dans de bonnes conditions. Il faut qu'on leur donne des conditions adéquates pour bien travailler, pour que la République centrafricaine ait des cadres d'ici demain pour diriger ce pays.
Et donc, selon vous, monsieur, est-ce que ce sont les conditions de travail de ces enseignants-là qui bouleversent ou qui remettent en cause le niveau d'enseignement dans le pays?
Mais regardez, je crois qu'il y a des écoles ici en Centrafrique, il y a certaines écoles privées qui paient même bien que l'État. Et beaucoup de nos enseignants aujourd'hui sont obligés de se rediriger vers l'enseignement privé parce qu'ils ont une bonne rémunération. Et mais pourquoi non seulement on ne forme pas bien nos enseignants? Il y a au moins deux ou trois jours, je crois, à Mando, j'ai écouté sur Radio Ndekeluka des jeunes enseignants
qui ont demandé
leur intégration dans la fonction publique. Ça veut dire qu'il y a problème. Il faut qu'on reconnaisse. Ce n'est pas parce qu'on est de l'autre bord où on est au pouvoir qu'on doit tout voir comme si tout fonctionne bien. Non, on est centrafricain d'ailleurs. On est centrafricain. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assoit, on discute, qu'on y ait des solutions. Mais si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Et pourtant, vous êtes au pouvoir, comme vous le dites bien. Vous devez le faire pour le peuple centrafricain, pour le bien du peuple centrafricain.
Répondissez.
Monsieur Armando, bon, mais je comprends mon frère Bayoumbo. C'est facile de... On dit souvent que c'est dans le gradin que le ballon se joue souvent très bien. Mais sur le terrain, on est souvent pressé de dire que c'est mal joué. C'est une bonne chose. Je comprends pertinemment, en fait, profondément, mon frère Bayoumbo, qui a mis en exergue le niveau de salaire, qui est l'une des raisons qui, bon,
ça,
qui
c'est,
entache...
Mais aussi, il y a des conditions de travail. Hein.
Oui, mais quand vous parlez de conditions de travail, je ne l'ai pas entendu ici donner un seul exemple. Alors, ajoutez à cela la grève des enseignants contractuels qui demandent de l'intégration. Et pourtant, je viens de vous dire ici que chaque décision... Vous avez bien parlé ici. Hein. Vous avez dit que gouverner se prévoit. Pour intégrer quelqu'un dans la fonction publique, il faut être sûr qu'il y a de l'économie pour payer cette personne, monsieur. Les analyses ne se font pas comme ça, par fantasme. C'est pas parce que les gens sortent dans la rue, crient et parlent. On dit, bon, ça va, pour satisfaire la population, on va les intégrer. Mais après, on va les payer comment? Sachant que les appuis budgétaires nous ont été coupés depuis longtemps. Sachant que, avec les crises dans les arrière-pays, les corridors qui font générer les recettes à l'État sont souvent perturbés par les groupes rebelles, les groupes armés. Ce qui impacte significativement la mobilisation des ressources domestiques. Si déjà, avec le peu des ressources domestiques, on peut prendre en charge, c'est vrai, malgré...
Et donc, tout ce que vous développez, monsieur Ngaté, donc pour vous, hein, pour l'instant, la priorité n'est pas dans l'éducation parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il y a la tension de trésorerie.
Mais c'est réel, cette tension de trésorerie. Ça ne sert à rien de se mentir, il vient de le dire ici. On ne peut pas se mentir. Avant de décider d'un plan politique, il faut d'abord réfléchir à comment vous allez financer ce plan-là. Ce plan d'intégration des cadres de l'enseignement national, l'enseignement supérieur, qui ont demandé l'intégration. Oui, mais si aujourd'hui on accepte de les intégrer, avec quoi va-t-on les payer? Donc c'est à ça, M. Bayoumbo, qu'il faut réfléchir. Oui, je suis d'accord avec toi que, oui, depuis longtemps, le salaire, ça c'est pas seulement des enseignants, mais de tous les fonctionnaires de l'État qui n'a pas grimpé. Pourtant, le coût de vie devient très cher. Il y a eu l'inflation, salaire n'a pas bougé. Mais aucun gouvernement, que ce soit celui actuel ou celui qui vient, ne pourra décider d'augmenter le salaire si on n'a pas d'autres sources de revenus supplémentaires.
Mais provoquons, on aura une occasion pour revenir, oui, pour voir pourquoi on ne crée pas, ce que vous avez dit, toutes ces ressources, toute cette chance-là pour augmenter le salaire, pour faire développer le pays. Mais rapidement, un point sur la question de certains endroits où il n'y a pas d'école, hein, comme Boki, comme Amdafor, comme bien d'autres régions où les enfants n'ont pas pratiquement accès à l'éducation, où c'est seulement les ONG qui voient le secours de ces enfants de ces régions-là. Que dites-vous de cela si la démocratie estime que l'accès à l'éducation pour tous fait partie de ses fondements?
Ah oui, mais c'est là où je fais un lien. Je fais un rapport entre le niveau de salaire et le dépaysement des enseignants. J'ai travaillé en Boki, hein, à Obo, durant 3 ans. J'y étais. Je connais cette réalité. Mais déjà, à mon époque où je travaillais, il y avait l'époque où c'était le phénomène Tongo-Tongo de Joseph Kony. Mais malgré tout, il y avait les enseignants. Après, les événements de 2013, où il y a eu multiplication des groupes armés un peu partout sur le territoire, qui sévissent partout avec des intentions très malveillantes de faire du mal aux gens avec la violence. Tout cela a encouragé aujourd'hui le fait de dépaysement, de désertation dans les zones où les enseignants doivent être déployés. Alors, on peut dire qu'à l'origine de ce problème se trouve l'insécurité. D'abord, premièrement, c'est l'insécurité. Il faudrait que le Centrafricain soit conscient.
Mais pour le cas de Mbok, comme vous l'avez dit, Amdafok et bien d'autres, ça a carrément duré.
Bien sûr, mais j'ai dit ici que la raison, c'est l'insécurité. Parce que qui va accepter d'aller travailler dans des conditions où l'insécurité est quasi permanente? Personne. Alors pour cela, on a besoin de l'implication de tous les Centrafricains. D'abord les jeunes de la localité qui se font recruter par les chefs rebelles. Il faut qu'ils savent que c'est leur région, c'est leurs enfants. S'ils acceptent de suivre les gens qui les poussent dans des projets malveillants, tendant à vouloir forcément faire du mal au système alors que leurs enfants sont en train de payer le prix. Donc l'insécurité est à l'origine, c'est la raison fondamentale qui justifie la désertion des enseignants dans ces localités-là. Secondo, il y a la cherté de vie. Parce que même si certaines localités où les rebelles ont été peut-être déjà démobilisés à cause de cette insécurité, mais le coût de vie est très cher. Parce que dans ces villes, les gens ne cultivent plus, les gens ne commercent plus. Donc avec son petit salaire d'enseignant, des fois c'est difficile de s'en sortir. Donc, tout cela se résume avec l'insécurité. Donc, je peux dire à M. Bayombo que s'il faut que nous revenions à la normale pour que les enfants, dans tous les coins du pays, puissent mieux apprendre, tous les leaders centrafricains, ceux qui soutiennent les rebelles, d'une manière ou d'une autre, de manière implicite, doivent comprendre que c'est eux qui sont à l'origine de cet impact négatif sur l'éducation nationale.
Et donc, la
situation, par exemple,
la situation pour vous qui perdure, vous rejetez sur la persistance de l'insécurité.
Tout à fait.
Monsieur Wayombo, sur cette question de l'éloignement de certaines régions où il n'y a pas pratiquement d'école et ça provoque un peu de remous sociaux dans ces régions où il y a des sentiments d'abandon de la part de Bangui.
Je viens d'entendre ici qu'il y a l'insécurité sur l'ensemble du territoire ou quelque part. Il y a l'insécurité sur une partie du territoire national. Mais je dis, on a toujours entendu, je ne sais pas pourquoi on tient des propos ambivalents à chaque fois, deux fois, pour des raisons bien connues, on dit que non, le pays est sécurisé à 95%. Il y a des gens qui disent ici, non, le pays est sécurisé à 95%. M. Ngate vient de dire ici qu'il y a l'insécurité. Donc, c'est des explications...
Et ça représente les 5%.
C'est des explications ambivalentes.
Il n'y a pas d'ambivalence ici, monsieur.
Il y a des explications...
C'est de la cohérence.
Non, vous l'écoutez d'abord.
Il n'y a pas de cohérence.
Il vous a écouté.
Aujourd'hui, vous venez de dire qu'il y a l'insécurité. Vous venez de dire qu'il y a l'insécurité sur le territoire national. Et c'est là qui fait aujourd'hui...
Je dis qu'il y a l'insécurité dans les zones où vous avez cité ici qu'il n'y a pas d'école.
Plus qu'à 95%, le pays est sécurisé.
Vous connaissez le pourcentage du territoire? Par exemple, du Mbomou.
Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Le territoire. Mais il n'y a pas que Mbomou.
Je parle de Mbomou. Vous ne connaissez pas la géographie centrafricaine.
Non.
Mbou qui est au bout.
Monsieur Gatté, vous perturbez votre côté.
Il a du mal à maîtriser la géographie centrafricaine.
Il vous écoute.
Vous n'êtes pas mon enseignant, Monsieur Gatté. Soufflez un peu que je finisse. Je vous dis une chose, même si que ce soit dans le Mbomou, mais sur l'ensemble du territoire, il y a ce problème de manque d'éducation. Il faut qu'on le reconnaisse. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas si par fantaisie ou pour protéger son pouvoir ou protéger quelque chose, on le dit comme ça pour plaire. Mais pourtant, la réalité...
Vous comprenez quoi par ensemble du territoire?
L'ensemble du territoire.
Non, monsieur, vous notez, s'il vous plaît. Vous notez,
c'est
vous
l'ensemble du territoire.
Vous écoutez, vous l'écoutez, s'il vous plaît.
100% du territoire. C'est l'ensemble du territoire. Et que si aujourd'hui, on nous dit qu'à 95%, le pays est sécurisé et que vous venez de nous dire ici que le problème qui persiste, c'est que c'est l'insécurité.
Dans certaines zones. Ce qui n'est pas faux.
Mais pourquoi
on ne se voile pas la face.
Mais pourquoi
et on a dit 95%, M. Bayombo.
Souffrez. Les 5%. Souffrez. 95% aujourd'hui, les gens souffrent dans l'arrière-pays, monsieur. Ça, c'est une réalité.
Vous ne bougez pas de Bangui.
Non.
Vous faites des affabulations.
Non. Nous avons tous des parents. Nous avons tous des parents à l'intérieur du pays. Qui nous donnent des informations chaque jour, au moment opportun, de ce qui se passe dans le pays. Donc, ne venez pas distraire.
Là, Vous finissez.
Voilà, pour finir, je dis que si aujourd'hui nous avons ce problème sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, vous avez par exemple des fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas une bonne politique en matière d'éducation. S'il y avait une bonne politique, comment on peut nommer des gens, on peut envoyer des fonctionnaires, des enseignants à l'intérieur du pays qui ne veulent pas et qui restent ici à Bangui et qui perçoivent leur salaire et sans autant que le gouvernement ou soit le ministère les sanctionne. Et ça, il y a un problème. Regardez par exemple dans les zones, il y a certaines zones où il y a manque d'enseignants, il n'y a que des fonctionnaires, ceux qui travaillent dans des ONG, les jeunes qui travaillent dans des ONG, qui interviennent dans des lycées. Mais c'est pas normal. Dans une école par exemple, ou dans un lycée, vous avez un cycle complet par exemple, vous avez que deux professeurs. Qu'est-ce que ça vaut? Regardez comment c'est.
Donnez-nous un exemple, monsieur Bayombo.
Plusieurs.
Donnez-nous un exemple.
Plusieurs.
Qui peut se vérifier?
Monsieur Ngaté, vous le savez plus que moi. Vous
le savez. Le professeur de Bukaranga s'est plaint. Hein,
voilà.
Aventir sur nos.
Vous le savez.
Donc,
bien.
Désolé,
vous
nous changeons.
Semblant.
Nous changeons de discipline rapidement pour parler de l'un de ces critères qui fondent la démocratie dans un pays. Des voix ne cessent de critiquer l'injustice criarde dans ce pays dit démocratique, la justice de deux poids deux mesures. Si rien n'est fait, va-t-on vers une dérive dictatoriale? Car l'opposé de la démocratie, c'est la dictature.
Quel est l'exemple d'injustice que vous voulez citer ici devant votre micro, que vous avez compris, que vous avez relevé?
Vous n'avez pas un membre du gouvernement qui a été appréhendé quelque part plus tard, qui a été relâché, Manu Militari, qui a été relâché par les militaires et qui aujourd'hui exerce sa fonction.
Vous parlez de qui?
Vous le savez bien que moi, dans le gouvernement.
Vous parlez de qui?
Vous le savez bien que moi.
Citez le nom, monsieur.
On ne cite pas le contemporain.
Vous dites qu'on est
un... Il y a un membre du gouvernement, monsieur Ngaté. Voilà.
Oui.
Et un membre du gouvernement.
Vous voulez parler de monsieur Hassan Bouba?
Ça existe.
Écoutez, ça ne sert à rien de... Je vais vous dire quelque chose. Nous avons eu des personnes qui sont intégrées dans des groupes rebelles. Il y a eu le dialogue de Khartoum. Après ce dialogue, il y a eu des engagements. Certaines personnes, certains leaders de groupes armés ont accepté de déposer les armes. D'accord? Et donc, il faut respecter les paroles qui sont dites dans des forums. Le dialogue, quand on l'impose, il faut être capable de respecter ce qu'on s'est dit.
Et quelle est la résolution?
Non, mais attends, vous avez donné un exemple ici. J'ai dit, monsieur Bouba était donc
non,
partie
pour
prenante.
Pour le forum, qu'est-ce qui a été dit? Plus d'impunité.
Suivez-moi. Mais plus d'impunité, oui. Mais si Hassan Bouba a cessé de soutenir les groupes armés, a réussi à démobiliser les gens qui sont avec lui.
Et donc ça balayait toutes ses fautes
hein? Non, je ne dis pas que ça balayait ses fautes. Qui vous a dit qu'on l'a libéré? Parce que c'est quand même le...
Membre du gouvernement.
C'est un membre du gouvernement, d'abord. Il bénéficie d'une certaine humilité. Il bénéficie d'une certaine humilité. Alors, donc, je ne sais pas dans quel contexte il a été...
Je me focalise
sur ça parce que c'est le nom qui a été cité par Bayombo.
Non, le déformez pas.
Allez-y.
J'ai dit un membre du gouvernement, que vous savez bien.
Que Armando, que vous avez eu...
Ça, il ne faut pas déformer les choses.
La peur au ventre de citer le nom...
Je n'ai pas la peur au ventre, monsieur. Voilà. Vous êtes censé savoir... Le nom de cette personne.
Je ne suis pas censé lire dans votre tête, monsieur Bayombo.
Donc, vous n'êtes pas dans le régime.
Mais parlons de la justice dans sa globalité.
Il y a la justice, monsieur Bayombo. Bon, à part le cas Bouba, que vous citez comme ça, qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est quelqu'un qui ne participe plus aux actions des groupes armés.
Abdoulaye Hissène
a déposé les armes, monsieur Bayombo.
C'est ça. Il est aujourd'hui.
Il a démobilisé les troupes, monsieur Bayombo.
Il est sous le verrou, oui.
Mais oui, il est arrêté.
Ah d'accord.
Après oui, il n'a pas encore été mis à la disposition de la justice. Et... Je ne sais pas quelles sont les discussions qui se font en ce moment. Ce n'est pas de notre...
Bon, maintenant, c'est pour cette raison que les gens se demandent et ils posent cette question. Les gros poissons ne sont pas pris et ils sont là. Et même les petits poissons croupissent en prison. C'est ça qu'on parle de deux poids deux mesures.
Quand vous faites cette comparaison, monsieur Armando...
Pas moi, c'est ce que les gens ont dit. Et qu'on vous explique si vous n'avez pas...
Voilà, mais quand vous faites la comparaison entre gros et petits poissons, citez-nous qui sont les petits poissons.
Vous faites semblant de
spéculer. Non, mais
il spécule pas. Il dit la réalité.
Il
dit haut ce qui se dit bas.
Non.
Est-ce que...
En fait, est à l'origine de plusieurs troubles dans ce pays, beaucoup de leaders politiques qui sont en liberté.
Lesquels?
D'accord.
Puisqu'il y a beaucoup de leaders politiques qui, en principe, selon vous, devaient faire la prison, mais qui sont en liberté, pourquoi ne pas les arrêter pour faire de la justice d'une manière équitable pour tout le monde?
Les noms.
Monsieur Bozizé, par exemple, à un moment purement démocratique, a décidé de lancer sa rébellion. D'accord. Et durant la période, dans sa cachette, en brousse, monsieur Anissé Georges Dologué l'a suivi là-bas.
Oh là là.
A demandé de le soutenir. A-t-on arrêté monsieur Anissé Georges Dologué?
Mais c'est ça la question.
Pourquoi n'a-t-on pas évoqué ce cas? Un gars qui a été en complicité avec un rebelle?
Non, retirez tout ça, monsieur.
Mais je ne retire pas.
Je pèse mes mots.
C'est grave.
J'assume mes conséquences.
C'est grave.
Ce que vous êtes en train
on parle de la justice,
mais c'est grave. C'est ça la justice.
C'est grave.
Deux fois deux mesures.
Monsieur Gatte, ce que vous dites est grave. Tellement grave.
S'il vous plaît. Monsieur Bayombo, on va mener ce débat.
Monsieur
Gatte, vous l'avez dit que c'est ça ce qu'on appelle la justice de deux fois mesures.
On est là pour discuter de Monsieur Doléguéré. On est là pour discuter de Monsieur Doléguéré.
Pourquoi le gouvernement? Non, s'il vous plaît.
On n'est pas là pour discuter de Monsieur Boisson.
Est-ce que j'ai parlé du président de la République un seul instant?
Est-ce que j'ai parlé du président de la République?
Est-ce que j'ai parlé
Abdoulaye Hissène?
On ne parle pas.
On n'est pas là pour parler d'Abdoulaye Hissène.
On cite des réalités, monsieur.
Mais je cite.
Vous étiez. C'est une réalité.
Vous étiez avec lui.
À Boussangoua.
Mais c'était suivi de tout le monde.
N'importe quoi.
S'il vous plaît.
Ça a été suivi.
On mène un débat.
Vous faites.
On va mener.
Défendez,
monsieur Gatte.
Ça c'est votre problème.
Un débat
mesquin.
C'est vous qui êtes mesquin, monsieur.
Monsieur, on s'insulte pas.
C'est vous qui êtes ridicule.
Et ça s'insulte pas, monsieur Gatte.
Ça ne vole pas
aussi. Est-ce que vous savez que les gens nous écoutent?
Je regrette de venir discuter avec vous et débattre avec vous.
Je ne regrette absolument rien. Ça me permet de respecter vos limites.
Respectez mon plateau et respectez les gens qui nous suivent. Monsieur Bayombo, je vous coupe. Je vous dis simplement qu'on doit mener un débat serein. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on mène ce genre de débat, mais on mène pour donner l'information à la population, des explications, ce que les auditeurs ne connaissent pas. C'est ça le rôle de ce débat, même s'il est contradictoire, mais qu'on le mène dans la sérénité.
Et sans
je
insulte.
Vous en appelle en tant que journaliste. Quand vous parlez de deux poids, deux mesures, à me citer un seul exemple, vous parlez de gros et de petits poissons. Je vous dis, citez-nous des exemples parce que nos éditeurs nous écoutent.
Avant que je ne réponde,
il répond à vos questions. Est-ce qu'il répond à vos questions?
Monsieur Bayombo,
vous n'êtes pas journaliste.
Monsieur Bayombo, non, on y va. On y va pas à pas. Vous l'avez déjà dit. Vous même avez dit.
La règle du jeu, il nous pose des questions.
Je vous coupe.
On lui répond.
Je vous coupe. Vous dites.
C'est la règle du jeu. Si vous savez pas,
c'est moi qui dirige le débat.
Si
je
vous coupe, c'est normal.
Monsieur, si je vous coupe, vous respectez la police du débat. Monsieur Ngaté venait de dire exactement ce que je posais comme question. Ouais. La justice de deux poids, deux mesures. Et vous l'avez évoqué, vous dites qu'en principe, on devait, selon vous, arrêter le chef de file de l'opposition.
C'est ça.
Mais vous ne l'avez pas fait. Ouais. Bon, ou le gouvernement n'a pas fait. C'est ça ce que vous appelez deux poids, deux mesures.
Non, il y a beaucoup de facteurs. On a un
mais
pays
pourquoi parce
qui
que,
sort...
Parce qu'on est leader, on commet des erreurs, on n'arrête pas, mais des gens
c'est
qu'on arrête,
c'est ça. C'est facile de rester derrière le micro et de parler de deux poids, deux mesures.
Non, c'est vous qui l'avez dit.
Non, mais attends. Les dirigeants, je vous assure, sont des fois face à des décisions compliquées. Il faut tenir compte du contexte actuel. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre à la va-vite. Après, c'est vrai, il faut laisser la justice faire son travail. Pourquoi la justice, le CPS a-t-il arrêté Hassan Bouba et qu'il a libéré après? Pourquoi aujourd'hui on a arrêté Abdoulaye Hissène? Vous ne savez pas les tractations qui se font en ce moment. Pourquoi? Pourquoi monsieur Anissé Georges Dologuélé, qui a suivi le rebelle Bouzizi Aboussangou à l'époque, n'a-t-il pas été arrêté? Vous comprenez pourquoi?
Et donc vous rejoignez la population qui parle de deux poids, deux mesures.
Je ne rejoins personne. Je rejoins le contexte du pays. Je rejoins la mentalité.
Et le contexte prime sur la justice, selon vous.
Mais attention, à force de vouloir faire la justice, vous risquez de faire dégénérer des situations compliquées que vous-même ne pouvez pas gérer. Donc, oui. À ce jour où je vous parle, d'abord, vous savez que notre justice, ça existe. La preuve, la fois dernière, lors des démarches référendaires, il y a eu la Cour constitutionnelle qui a annulé la procédure référendaire engagée par le chef de l'État. Est-ce que cette décision a été contestée ou elle a été respectée?
Comment ça a été respecté?
Ça a été respecté.
Ah ouais,
ça vous m'étonne. Dites-moi le contraire.
Le contraire, on est que ça malgré la décision de la Cour constitutionnelle, vous avez prospéré dans votre projet.
Vous parlez du non-respect de la justice, mais la décision de la Cour constitutionnelle a d'abord été respectée.
Ah bon?
Finissez dans quelques secondes et puis on va.
Et donc la justice, ça existe.
Ça existe.
Le chef de l'État se plie aux décisions de la justice. Ah. Les dirigeants de ce pays se plient aux décisions de la justice. Donc la justice, il n'existe pas de deux poids, deux mesures. Il existe simplement des conditions qui vous échappent à vous.
À la population, pas à moi. Parce que vous vous intéressez à la population.
Qui ont d'autres opinions de comment ça se passe?
On écoute Monsieur Bayombo sur la question des deux poids, deux mesures qui remet un peu en cause l'indépendance de la justice.
Non, je voulais rebondir un peu sur le sujet où... Monsieur Ngaté a cité le nom de Monsieur Doléguéré, qui soi-disant qu'il était parti à Boussangoua, s'allier avec le président Bouzizi. J'ai dit non, c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité. En vérité, nous avons signé, nous avons un projet que le président Bouzizi, avec son parti,
puisse
s'allier. Contact s'allier avec Bozizé, non, s'allier, le chef rebelle déjà à l'époque ou pas.
Monsieur Ngaté, monsieur Ngaté, je vous coupe s'il vous plaît.
Vous avez déjà déclaré comme
monsieur Ngaté, monsieur Ngaté, s'il vous plaît.
Il y a une différence.
Est-ce que vous avez su qu'il était resté tranquille pour vous écouter?
Voilà.
L'écouter comme ça, vous allez comprendre le développement avant de rebondir. Je vous en prie. Prenez note, vous allez rebondir. Et je vous donnerai la parole si vous demandez pour rebondir.
Je connais ses émotions, je sais, c'est normal qu'il puisse être un peu émotif, mais je lui dis la réalité en est que le KNK, même le MCU à l'époque, avait demandé au président Bozizé de le soutenir. Ça n'a pas été le cas. Et nous avons demandé à être
faux
avec le président, le KNK, pas avec le président Bozizé, mais avec le KNK. Parce que nous avons fait une alliance électorale. C'était dans ce but que le président de l'Église.
On n'est pas sur ce point
avec
avancé.
Le président
avancé, s'il vous plaît.
Et donc, ce n'était pas pour un projet
qui se sont
malveillant. Malveillant, monsieur. Si vous avez des preuves, si vous avez des preuves, montrez-les.
Affirmez.
Monsieur Ngaté, s'il vous plaît,
je n'affirme rien. Je vous dis que c'était une alliance politique.
Non, on n'est pas sur ce point. Évoluer sur la question de deux poids, deux mesures qui remet en cause l'indépendance de la justice, comme évoqué par monsieur Ngaté tout à l'heure.
Ben oui, ben c'est connu, c'est connu. Est-ce que quel est le Centrafricain qui ne peut pas savoir qu'aujourd'hui il y a deux poids deux mesures? Il y en a plein, il y en a plein. Nous avons des pareils cas aujourd'hui où il y a même au niveau de la mairie. Vous savez qu'il y a des dénonciations, il y a quelque chose. J'ai suivi le secrétaire général de la mairie parler. Est-ce que c'est déjà abouti à quelque chose? Non, jusque là. Donc il y a des gens qui se plaignent là-bas. Il y a un préavis de grève qui a été déposé par le personnel de la mairie. Vous le savez bien.
On parle de la justice.
Non,
de préavis de grève.
Mais non, il n'y a pas de confusion. Je vous dis, dans un état normal, on aurait pu faire une enquête normalement au niveau de la mairie et savoir ce qui se fait là-bas. Et le personnel se plaint. On devait quand même trouver des solutions. Si on ne le fait pas, il y a l'injustice, monsieur. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous ne comprenez pas, souffrez. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Donc, on ne peut pas nier. Il y a une réalité qui est là. La preuve, monsieur Abdoulaye Sène, aujourd'hui, qui est votre allié, il est aujourd'hui sous le verrou. Et donc, l'autre est libéré, qui est au gouvernement, qui est libéré. Et donc, il y a deux poids, deux mesures.
Mais quel est le risque si l'injustice et l'inégalité battent l'air plein dans un pays comme la République centrafricaine?
Les conséquences, c'est ce que nous savons aujourd'hui. Il n'y a plus de respect de la loi. Il n'y a plus de respect de la justice. Il n'y a rien. Rien ne fonctionne. Tout le monde fait à sa tête. Parce qu'on ne peut pas sanctionner. On ne peut pas aboutir à une enquête et dire réellement qui a fait quoi pour que les gens... Le président de la République, dans ses discours, il le dit, nous entendons aujourd'hui comme tous les citoyens. Mais on dit qu'il n'y a plus d'impunité, il n'y a plus rien. Mais c'est beau de dire. Mais il faudrait qu'on joigne l'acte à la parole. La parole à l'acte. Si on ne le fait pas, mais ça ne sert à rien. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que le peuple demande d'ailleurs. Nous savons que c'est le président de la République, mais qu'on le dise, qu'on va encore plus fort. En cherchant ces gars-là, en les sanctionnant, on les remet au maître de la justice et que la justice fasse son travail. À partir de ce moment-là, nous serons comme Thomas pour voir et dire qu'effectivement, il y a la justice en Centrafrique.
Monsieur Ngaté, c'est la même question pour vous. Hein. Si aujourd'hui, par exemple, l'injustice bat son plein, quel est le risque que court le pays, selon vous?
Bon, les conséquences de l'injustice, c'est la crise sociale. Vous le savez, ça se résume comme ça, tout simplement. Il va y avoir crise sociale, il va y avoir soulèvement. Déjà, s'il n'y en a pas, ça prouve, je ne nie pas le fait qu'il y ait quelque part à gauche, à droite, dans certains aspects.
D'accord.
En fait, il y a à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, c'est d'abord. Mais ça ne sert à rien de mélanger les crises sociales au problème où la justice doit s'impliquer et tout. Bon, en fait, il y a la justice sociale. Ce qui se passe à la mairie, vous ne savez pas ce qui se fait en ce moment, les tractations, vous ne les maîtrisez pas.
Mais dites-le.
Donc,
on ne le sait pas.
Travaille pas à la mairie, monsieur.
Ah, d'accord.
Voilà. Alors, donc, il se peut que la mairie actuellement trouve des difficultés à faire face au salaire de ses agents. On ne connaît pas, mais la mairie dépend du ministère de l'administration du territoire. Il va falloir que les autorités prennent leurs responsabilités. Peut-être ça se prend en ce moment. Laissons faire les choses.
Il y a une discussion. Le maire est nommé par le président Larc.
Oui, mais la mairie dépend du ministère de l'administration du territoire.
C'est ça.
Ce n'est pas au président de décider. Il dépend. C'est l'administration publique, monsieur Armando. Donc, il y a une hiérarchie dans ces choses. Ne pensez pas que tout le problème doit être décidé par le président ou que c'est lui qui doit se lever d'un bon matin.
Non, je vous rappelle que président de la délégation spéciale de la ville de Bangui a été nommé par le président de la République.
Il peut aussi être révoqué par ce décret.
C'est un fait qui ne date pas d'aujourd'hui. Et alors, le président, peut-être s'il n'a pas décidé, veut s'entourer de toutes les garanties. On ne peut pas relever quelqu'un comme ça si on ne l'a pas encore réussi.
Non, on ne parle pas de relever, mais...
Voilà
de...
Alors là, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est ça, pas une question qui...
Et puis on n'est pas sur la
de notre envergure.
C'est un absolument. Exemple.
Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'injustice. Vous avez évoqué les cas des fonds. Moi, je travaille au ministère des Finances, monsieur. Je peux vous dire qu'il y a une centaine de dossiers d'enseignants qui ne regagnent pas leur poste, qui ont les salaires coupés. Vous ne pouvez pas parler d'injustice, d'impunité. Ça existe. Je vous braverai les... On dirait les preuves là sur la table. Donc, il y a beaucoup de fonctionnaires qui refusent d'aller prendre leur poste en province et pourtant, certains de leurs collègues sont sur place qui ont vu leur salaire coupé. Donc, il n'y a pas d'impunité, monsieur. Il n'y a absolument pas d'impunité. On continue à mettre aux arrêts les fonctionnaires malveillants.
Armando, je voulais dire.
Est-ce que je peux terminer Est-ce que je peux terminer, monsieur
finissez d'abord.
Est-ce que je peux terminer
finissez d'abord.
La conséquence de l'injustice, c'est la crise sociale, d'accord ? La conséquence de la crise de l'injustice, c'est, par exemple, le fait que le peuple doit se soulever contre le système en place. Ça, vous ne le voyez pas. Est-ce que vous avez vu un signe, un indicateur qui prouve qu'il y a une révolution sociale, qu'il y a un soulèvement ? Ben non, parce que malgré les difficultés que l'État traverse, il fait de son mieux pour faire face à ces problèmes sociaux, pour faire face aux besoins fondamentaux de la population. Donc, il ne faut pas prendre les cas isolés liés à la mairie de Bangui pour le généraliser. Ça, ce n'est qu'un cas parmi...
Je vous rappelle voilà. Qu'on n'est pas sur ce fait de la mairie.
Monsieur le journaliste, non. Vous évoquez les conséquences de l'injustice. Et monsieur Bayombo fait référence à un cas isolé qui est la mairie de Bangui et généralise sur tout le pays. Ça, c'est un cas spécifique. Et ça se traite en ce moment, je vous informe.
Mais je dis une chose. Nous avons eu ce contrôle des fonctionnaires, ça fait quelques mois déjà. Mais il y a eu... des fonctionnaires. Nous avons écouté qu'il y a eu des fonctionnaires, pas les moindres, qui ont été appréhendés et qui avaient au moins 2 ou 3 bulletins. Vous êtes aux finances, vous savez cette question. Mais pourquoi aujourd'hui on ne donne pas le rapport, on ne dit pas les noms clairement et on nous dit que d'autres ont donné leur cutis de rembourser l'argent. Mais pourquoi on ne peut pas les arrêter? C'est la question que je pose.
C'est lui qui pose la question.
Je me pose la question. Je me pose la question. S'il n'y a pas deux poids, deux mesures.
De la démocratie, dans ce pays, il est aussi instauré la liberté d'expression, un moyen qui permet de déclarer un pays démocratique. Mais lorsque cette liberté d'expression n'est pas encadrée, quel avenir pour la démocratie dans ce pays?
Ah ben, c'est la dictature. C'est la dictature, c'est le monopartisme. C'est que la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. S'il y a absence de démocratie. Et donc, comme je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, notre démocratie est malade. Vraisemblablement, notre démocratie est malade. Et donc, il va falloir penser et repenser notre démocratie. À partir du moment où nous savons que nous avons des difficultés sur le plan et les principes démocratiques, nous devons tout faire pour nous asseoir, penser et repenser ce qui va, ce qui ne va pas dans cette démocratie aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas la première fois que la République centrafricaine ait fait l'expérience de la démocratie. Après la chute de l'empereur Bokassa en 1979, le président Dacko qui était arrivé a voulu tenter une brève aventure démocratique qui s'est soldée par un soulèvement et autres. Et cela a facilité la prise de pouvoir par le président Kolimba à l'époque. Et donc c'est une deuxième fois maintenant. Si aujourd'hui notre démocratie est malade, nous devons être conscients et chercher à soigner cette démocratie.
La liberté d'expression.
Pour la liberté d'expression, je dis non. Mais bon, même si aujourd'hui, nous voyons, c'est vrai, il y a certains de la presse écrite qui écrivent, où vous avez aujourd'hui cette liberté grâce à Nekeluka aussi, ça c'est une bonne chose. Il faut féliciter, mais que cela soit pérennisé. C'est vrai, il y a des cas isolés où la liberté d'expression n'existe pas. Il y a des cas isolés vraisemblablement où les citoyens sont contraints. Ceux de l'opposition, par exemple, n'ont pas droit à dire des choses ou critiquer. Et pourtant, c'est leur devoir, c'est leur travail. Ils doivent critiquer les actions du gouvernement, apporter des contributions pour que le régime en place puisse se développer et changer le paradigme. Mais si on ne le fait pas, si on cherche à museler l'opposition, on cherche à museler une certaine catégorie des leaders d'opinion ou ceux qui détiennent le leadership d'opinion, ça devient un problème et la démocratie se vide de son sens.
Monsieur Ngaté, sur la liberté d'expression, si selon vous, celle n'est pas encadrée, que deviendra la République centrafricaine dans un pays démocratique, comme vous l'avez dit?
Le chaos, monsieur le journaliste. La liberté d'expression dans notre pays, elle existe hein, d'ailleurs. Je suis enchanté de voir au moins que M. Bayombo, à quelques degrés d'honnêteté,
où il s'en est greffé un tout petit peu pendant les quelques minutes qui ont suivi. Il n'y a personne qui soit emprisonné d'abord, reconnaissant cela pour son opinion dans ce pays. Ndekeluka est là et s'exprime librement. Vous n'avez jamais été inquiété, M. Armando.
Ndekeluka n'insulte pas, c'est ça aussi la question.
Oui, je vous comprends. Mais
je cite d'expression.
Oui, mais c'est là où je vais en venir. En fait, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est là où on trouve le désordre. Malheureusement pour nous, on n'a pas le contrôle sur les réseaux sociaux, qui sont aussi aujourd'hui des outils qui permettent à n'importe qui, à n'importe quel coin du monde, de s'exprimer. Quand on ajoute à la liberté d'expression les insultes, hein, les injures, le manque de respect vis-à-vis des autorités, ça, c'est cela qu'il faut chercher à contrôler et à encadrer. On a des lois qui encadrent la liberté d'expression ici, mais on ne peut pas contrôler. C'est lui qui reste derrière son téléphone aux États-Unis, en France, en Afrique de l'Ouest.
Il y en a qui le font à visage découvert, mais qui ne sont pas inquiétés sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez évoqué.
La plupart de ceux qui le font ne se trouvent pas au pays. Ils sont ailleurs. Si vous en savez un seul qui se trouve au pays, vous pouvez citer le nom. Mais c'est là où il faut encadrer les choses. Maintenant, encadrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Même dans les pays démocratiques, dites hautement démocratiques, les États-Unis, la France et tout cela, c'est difficile de maîtriser les activistes qui travaillent derrière leur téléphone sur les réseaux sociaux. Ça, c'est difficile. On n'a pas encore la cyberpolice. Là, on n'en a pas les moyens d'ailleurs. Donc, il faut développer notre niveau d'encadrement de sécurité.
Comme vous l'avez dit, hein, déjà, si on a des visages découverts, etc., le gouvernement n'a pas d'outils pour les contrôler ou les sanctionner. Mais ceux qui sont déjà visibles, pourquoi ne pas les traquer pour vraiment atténuer la situation?
Vous avez parlé de la justice, M. Armando. Si je me lève et que pour aucune raison, je commence à insulter M. Bayombo sur les réseaux sociaux, ces injures publiques constituent un délit. M. Bayombo, qui m'identifie, dépose plainte au tribunal. Et l'homme qui doit dire le droit va prendre toutes les dispositions pour que l'on puisse me mettre la main dessus, me traduire devant la justice et qu'avec Bayombo, on puisse venir se défendre de pourquoi je l'ai insulté. Et puis la justice, ça suivra. Donc c'est des questions d'action qui doivent être menées entre personne et personne. Alors s'il s'agit des autorités, souvent ils décident d'ignorer. Parce que à force de vouloir faire face à quelqu'un qui trouve plaisir à insulter, tu lui apportes de l'eau à son moulin, ça lui permet de penser qu'il est tellement utile qu'il va continuer à insulter. C'est pour ça, à ma connaissance, hein, que les grands leaders politiques souvent acceptent de ne pas calculer ceux qui insultent. Maintenant, s'il s'agit d'une personne à une autre personne qui insulte, ça ce n'est plus la liberté d'expression, c'est du voyeurisme. Et cela, ça peut être poursuivi par la justice à condition que la victime dépose plainte.
Il faudrait que la justice puisse se mettre au travail pour traquer ceux qui sont déjà visibles, qui font ces genres de déclarations, qui insultent, comme a dit M. Ngaté, mais à visage découvert.
Bien, mais il faut des mesures coercitives. Chercher à identifier ceux-là et les emmener devant la justice. Mais de toutes les manières, nous avons une institution ici qui fonctionne, le Haut Conseil de communication.
Ça concerne les médias qu'il contrôle.
J'ai entendu le président Poumbi dire qu'il ne peut pas contrôler, il n'y a pas de mécanisme qui existe pour,
aucun instrument.
Pour chercher à endiguer ça. Mais bon, je ne sais pas si. Est-ce qu'on ne peut pas, dès aujourd'hui, si ce problème est devenu un peu récurrent, mais si on ne peut pas chercher à instaurer ça, à faire d'une loi et chercher à sanctionner, par exemple, nous avons des compatriotes, par exemple, qui insultent ou qui font des choses au niveau de la diaspora et autres. Oui, on suit. Mais est-ce qu'on ne peut pas chercher des moyens, des voies et moyens pour chercher à les contraindre, à rester dans la République ou à ne pas se faire ce genre de jeu? Bon, ça, c'est la question que je pose. Mais il n'y a pas, je dis, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a certains leaders en République africaine qui ont déposé plainte, par exemple, contre X ou Y sur la question que vous l'avez évoquée et que la justice n'a pas été prononcée contre eux?
À mon avis, jusque-là, il y a les leaders. Est-ce que si pas, M. Ngaté se plaint un peu parce que, bon, de leur côté, il se peut que les autorités soient insultés sur les réseaux sociaux et autres, nous aussi, on nous insulte aussi, nos leaders aussi de l'opposition. Donc vous voyez, c'est une question vraiment qui n'est pas bien, parce que quand quelqu'un qui se lève le matin comme ça, qui commence à insulter, ça ne fait pas du bien. Vous voyez, d'abord c'est nos aînés, ce sont nos grands frères qui sont aujourd'hui à la commande de l'État, et nous sommes appelés en tant que jeunes à nous retrouver un jour, peut-être à la commande de l'État. Mais si nous avons ce genre de comportement, qu'allons-nous léguer? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos petits frères qui viendront après nous? Donc c'est des cas comme ça là, qu'il faut chercher
à remettre au sein du fonctionnement de la démocratie.
Monsieur,
ouais, d'abord pour moi, je pense, Monsieur Armando, que c'est des questionnements que le législateur doit mettre sur la table pour commencer à cogiter dessus. Comment élaborer donc un scénario, développer un mécanisme pouvant nous amener à contrôler le cyber mauvaise communication, permettez-moi le terme.
Les réseaux sociaux,
c'est ça en termes simples. Alors, je pense qu'il faut que les législateurs commencent à réfléchir à cela, mais je vous dis, ça va être un combat un peu difficile. Contrôler les réseaux sociaux, même les pays de technologie de pointe qui ont mis en place ces plateformes n'arrivent pas à contrôler leurs citoyens qui s'agitent sur cela.
Mais si on voit déjà la nature de ceux qui insultent, comme vous l'avez dit, oui, il y en a qui sont dans l'idée de soutenir X ou Y, parce que ce sont les leaders politiques qui financent des fois ces jeunes-là. Mais quel est l'avenir de ceux-là? Qu'est-ce qu'on est en train de léguer, comme a dit monsieur?
La communication, monsieur Armando, fait partie du jeu politique. Malheureusement, qu'il y en a qui le font de manière malsaine. Je veux dire là ce que Bayombo a dit, si les insultes à l'égard, à l'endroit des hautes personnalités, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ça, je ne partage pas cet avis, je déplore cela.
Mais déjà,
je reprouve cela.
Mais il y a des mains qui sont derrière ce jeune. Et ces mains, ce sont ces hommes politiques, comme vous l'avez évoqué.
Vous voulez dire qu'il faut chercher ces mains et qu'il faut les arrêter? Vous les trouverez du côté de l'opposition, tout comme du côté du pouvoir en place.
Mais il faut le faire pour arrêter l'hémorragie, comme vous l'avez dit.
Ils sont tapis dans l'ombre, difficiles à dénicher.
Si on attrape un d'entre eux, un jeune, qui prend son temps pour insulter, par exemple, le président de la République ou, par exemple, le chef de file de l'opposition, vous verrez que...
Mais sur ces faits, M. Armando, la justice ne peut pas s'auto-saisir. Il faudrait que la victime dépose plainte, que la personne qui a insulté soit traquée par la justice, d'ailleurs.
Mais pour le président de la République, la justice peut s'auto-saisir. Parce qu'on parle de président de la République en tant qu'institution.
Le président de la République, c'est une personnalité à part entière. Il ne préfère pas être dans les détails pareils. C'est un homme concret qui veut plutôt qu'on le connaisse que qu'on raconte son histoire. Donc s'il se choisit lui-même de ne pas se permettre de rentrer dans le jeu des petits communicateurs sur les réseaux sociaux, c'est sa personnalité. Il sait que quand tu es leader, tu vas te faire insulter pour parfois aucune raison. Donc, on ne peut pas dire... oui, mais c'est lui le président de la République d'ailleurs. Hein. Je pense que la justice, si elle veut s'auto-saisir, prend consigne de lui. Mais si lui, il décide de ne pas donner ordre à la justice ou de ne leur pas permettre de s'attaquer à ces gens, qu'à se laisse faire. Bon, ça, c'est là aussi la démocratie.
Oui, je vous donne la parole, M. Boyombo, sur cette question. Si de part et d'autre, on tolère qu'il y a des jeunes qui soutiennent...
Non, ce que je dis,
et ceux du pouvoir...
Je ne dis pas qu'on tolère.
Le gouvernement qui soutient...
Je dis simplement...
On dit si on les arrête...
Qu'on ne contrôle pas.
Problème. Et du coup, ça ne va pas causer vraiment de la zizanie dans le pays.
Ben c'est ça. Ça devient de l'anarchie. Ça devient de l'anarchie et ça va impacter sur les personnalités qui sont citées ou qui sont insultées sur les réseaux sociaux parce que c'est pas normal. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, j'implore nos frères jeunes qui sont dans ces différents positionnements politiques de chercher à ne pas se verser dans ces genres de pratiques parce que ça n'honore pas, ça ne fait pas du bien et que nous devons respecter nos anciens, respecter nos aînés qui sont aujourd'hui sur la scène politique parce que nous serons appelés un jour à venir les remplacer et que
je vous en
nous
prie,
devons être
le temps nous fait
Armando, défaut, je vous monsieur. Remercie je merci remercie beaucoup. Aussi ceux qui m'ont soutenu durant mon enlèvement, notamment le président de Le Guélé, son épouse Madame Luisa de Le Guélé. Et surtout le coordonnateur du BRDC qui m'a soutenu dans ces moments difficiles. Je dis merci aussi au peuple central.
Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce débat. Je rappelle que vous êtes M. Serge Bayombo, porte-parole du chef de file de l'opposition, Alessie Georges de Le Guélé, le président de l'IRCA. M. Hippolyte Ngaté Robart, merci beaucoup.
Je vous remercie, M. Armando.
Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines au ministère des Finances et du Budget en République africaine, l'un des leaders jeunes qui soutiennent le président de la République et les actions du gouvernement. Merci à vous. Il me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout bon dimanche. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence pour un autre numéro. Merci beaucoup.